Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
À chaque fois que la prochaine fois il fera un petit geste, mais ce n'est pas facile. Peut-être que le jeune est timide et qu'il aimerait bien, ce qui fait que lorsque le jeune vient chez lui demander un petit service, il est entre chaud et froid. Nicolas lui dit: j'avais une jolie veste. Elle la touche un peu, le jeune sourit et lui dit: oh, c'est une vieille veste, la doublure est morte. Nicolas lui sourit et dit: vous avez de beaux cheveux? Merci. Il voit que le jeune bande un peu. Nicolas lui dit un autre jour: qu'est-ce qui fait chaud? Le jeune lui dit: oh oui alors, on ne sait pas comment s'habiller. On va tout de même pas se mettre à poil. Nicolas lui répond: pour vous, ça peut aller.
Quoi?
De vous mettre à poil.
Pourquoi?
Parce que vous êtes jeune et bien.
Le jeune sourit. Merci. Et les choses se passent ainsi. Aucun signe ne marche. À moins qu'il ne s'imagine pas Nicolas lui faisant signe.
Nicolas se lève. Et s'apprête à aller à la salle de bain. Votre linceul. Il va ouvrir. C'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour, je te gêne pas? Non, entre. Guillaume entre. Voit la porte fermée, Guillaume lui fait la bise. Elle lui dit, je t'ai réveillé?
Non, pas du tout. Je me levais. Excuse-moi
de te recevoir comme ça. Guillaume lui dit, ça n'a pas d'importance. Tu es très bien comme ça. Qu'est-ce que tu allais faire?
Ben, j'arrangeais mon lit, après j'allais me doucher.
Guillaume lui dit. Alors dans ta chambre, ils y vont.
Tiens, entre.
Le lit n'est pas encore fait. Nicolas s'assoit sur le rebord du lit. Et fait signe à Guillaume de s'asseoir près de lui.
Il lui demande, que deviens-tu? Guillaume lui dit, je reviens d'un voyage en Hongrie pour faire des essais pour un film. Nicolas trouve Guillaume très attirant. Il a un joli corps, cette façon qu'il a de croiser les mains pour se tourner les pouces, les mains sur cette boule qui est son sexe. Nicolas se dit qu'il doit drôlement se masturber. Guillaume lui dit, je trouve bien, tu sembles avoir la forme. Merci. Puis Guillaume lui dit, j'ai vu ton dernier film, histoire sulfureuse, dis donc, mais développée comme une comédie. Pour y arriver, il faut être fort. Beaucoup se seraient cassés la figure. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Nicolas lui répond. Je vais commencer un autre film. Je n'ai pas encore trouvé de sujet, mais ce sera sûrement pour Jeanne. Ah oui, j'ai appris que tu es avec elle. Avec elle, oui, mais je suis libre. Il met la main sur la cuisse de Guillaume, qui ne dit rien. Nicolas lui dit. Avant de passer aux choses sérieuses, tu vas me raconter ce que tu fais. Guillaume lui dit, j'étais convoqué par un grand metteur en scène américain. Lequel? Orser. Tu sais, celui qui n'a jamais eu de chance. Le martyr des producteurs qui lui ont massacré ses films. Celui qui n'a jamais pu finir un film. Il t'a convoqué quand? Au cours de mon voyage que j'ai fait il y a un mois au Nevada pour me reposer un peu de mon tournage de Terminus 8. Lorsque je reçois un appel téléphonique de lui, je n'y croyais pas. Et puis c'était bien vrai. Il me dit qu'il a pensé à moi pour un rôle dans son film qui va faire que ce film sera le plus beau de l'histoire du cinéma. Qu'un producteur lui donne carte blanche. Le film doit être tourné en Hongrie et qu'il veut faire des essais avec les comédiens et techniciens dans certains endroits. Surtout qu'il y a un escalier fantastique. Il me demande si je suis d'accord. Je réponds bien entendu oui. Il me donne rendez-vous à l'aéroport la semaine suivante. Donc, une semaine plus tard, je me trouve dans l'avion avec les techniciens, matériels, comédiens, costumières, etc. En Hongrie, nous logeons dans un hôtel de grand luxe. Ils nous montrent où nous allons tourner, et surtout l'escalier. Pour le lendemain, tout le monde se prépare pour les essais. Puis, nous allons tous nous coucher. Le lendemain matin, nous nous retrouvons tous dans le hall de l'hôtel prêt. On attend le cher maître. 1 heure. 2 heures, 3 heures, on téléphone à sa chambre, pas de réponse. Il décide de m'envoyer voir, il est peut-être malade. J'y vais, la chambre est vide, on le cherche de partout, le maître a disparu. Nous sommes tous à Hongrie
avec tout à payer, même la chambre du maître et ses repas. Après réflexion, nous décidons de rentrer chez nous. Nous payons. Nous nous préparons à partir furieux. Mais juste avant que je parte, le cher maître me téléphone de Rome et me dit que le film ne l'intéresse plus, qu'il a un autre projet. Je suis furieux et me dit qu'il nous a... qu'avec quelle désinvolture il me dit ça. Le temps qu'il nous a fait perdre, l'argent, les voyages, l'hôtel, etc. Et l'on a payé tout pour lui aussi. Et voilà. Et en partant de Hongrie, j'ai décidé de venir te voir. Nicolas lui dit, tu as bien fait. Tu as décidé de venir me voir comme ça? Parce que l'on fait bien les jeux de lit, tous les deux. Elle lui met la main sur son sexe et qu'il trouve très raide et chaud. Et il demande, tu veux la chanson pour les jeux de lit? Guillaume sourit. Nicolas se lève pour aller mettre le disque. Sur un vieux tépas. Et font les jeux de vie. Pendant 6 mois, Nicolas ne peut se passer et ne pense qu'à Guillaume. Il ne travaille plus et continue malgré tout à voir Jeanne. Elle accepte cette liaison amoureuse à Troyes. Ils sont toujours ensemble dans les soirées, en vacances, etc. Lorsqu'ils sont tous les trois, ils dorment chacun dans une chambre par respect de l'autre, s'embrassent, ne se font pas de caresses, pas d'intimité sexuelle à trois. Se comportent comme trois amis, mais qui deux par deux vivent l'amour. Jean accepte car elle sait que Nicolas ne peut vivre avec Guillaume à cause des convenances et parce que Guillaume voyage beaucoup. Un jour, Guillaume apprend que le grand metteur en scène américain est mort. Dans les journaux, les reportages de radio, Nicolas et Guillaume apprennent des choses sur lui, car sa femme et ses amis dévoilent. En réalité, c'était pas lui le martyr, le volé des producteurs américains, mais lui qui volait, trichait avec les producteurs. C'était les producteurs qui étaient ses victimes plutôt que le contraire. Orser était un homme qui avait beaucoup d'imagination et d'idées, mais qui était incapable d'aller jusqu'au bout de ses idées et de ses projets, parce que chaque matin, un nouveau projet effaçait celui de la veille et qu'il n'était pas capable techniquement de réaliser ses projets. Il ne pouvait jamais mener à terme ce qu'il commençait. S'il y est arrivé une ou deux fois, c'est parce qu'il était étroitement surveillé et avait une équipe de grands pros, qu'il était entouré de trop de monde pour lâcher la chose. Ses héritiers ont trouvé dans sa cave des piles de bobines de films et de bandes-son, en mauvais état à cause de l'humidité, car monsieur qui se disait être volé par les producteurs les volait plus tôt. À chaque fois qu'il terminait sa journée de tournage, monsieur emportait les bobines de ce qu'il avait fait, par peur que l'on juge son travail et voulait garder son film, qui pourtant était la propriété du producteur, car pour lui, comme pour beaucoup de metteurs en scène, le producteur est juste l'homme à faire des chèques, mais qu'il ne doit rien nous demander en échange. On s'est aperçu que certains films qui avaient dit n'avoir jamais pu finir à cause des producteurs étaient finis, mais que ces films étaient si mauvais qu'ils ne voulaient pas les montrer. On a trouvé aussi des films commencés, mais trop mauvais. Pour cacher son travail, il a camouflé les bandes-son, les rangeant d'une certaine façon pour qu'on ne puisse pas les marier avec les images. Toute sa vie, il a vécu en jouant au martyr hollywoodien. Et cette chose arrangeait tellement les intellos gauche caviar. Vous voyez, le capitalisme américain, Osser, en est la victime. On l'empêche de s'exprimer. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Orser a passé une grande partie de sa vie à ne rien faire grâce à la légende d'un homme martyrisé, et ça a été son premier travail et son gagne-pain. La famille ne veut pas montrer les films qu'il a finis, de peur de salir sa mémoire et leur gagne-pain. En montrant que des extraits très courts de films qu'il n'a pas finis, en disant « Voyez comme c'était un génie !» et quel dommage qu'il n'ait pas pu finir cette œuvre à cause du financier producteur. En réalité, il était incapable de finir un travail. Cola dit à Guillaume. Il y a trop de metteurs en scène et d'intellos qui se disent de lui pour que l'on abîme sa mémoire. Que veux-tu? Il y a aussi trop de soi-disant metteurs en scène qui ne sont pas du métier. Le temps passe. Nicolas, Jean et Guillaume vont passer quelques jours à Deauville pour se reposer un peu. Ils y vont en voiture. Ils ont pris trois chambres d'hôtel, côte à côte. Nicolas a celle du milieu. La station est presque déserte, car c'est encore la morte saison. Après avoir dîné au restaurant de l'hôtel, John leur dit
« Je vais marcher sur la plage. Vous venez ?»
Guillaume lui répond
« Non, je suis fatigué. Je vais me coucher. »
Elle demande à Nicolas « Et toi ?»«
Je vais avec toi, oui. »
Pensez-vous, papa, ils sont 76. Il est pas formidable.
Et ils sont partis. Ils sont descendus sur la plage. La nuit est noire. On entend le bruit de la mer. Ils marchent pendant un long moment sans se parler. Nicolas est triste. Jean le voit et lui demande
« Ça ne va pas ?»« Non. »«
Tu as l'air triste. »«
C'est pas grave. »«
Je pense à quelque chose. »«
Ou à quelqu'un. »«
Tu sais, j'ai une comédien Y. » Elle lui dit,
oui, il me manque. C'était quelqu'un de tellement exceptionnel.
Tu l'aimais?
Pas comme tu le crois. Il était si pur.
Il y a des moments où j'ai besoin de lui.
Jean lui prend la main
et lui dit, nous sommes là.
Colin sourit et lui dit,
oui.
Et comme il commence à faire froid, il décide de rentrer.
Les jours passent, calmes et paisibles. Nicolas passe les nuits seul.
Un soir, qu'ils marchent tous les trois sur la plage, Jean leur dit
« Moi aussi, j'aimerais bien faire des jeux de vie. »
Les garçons se regardent et Guillaume dit
« C'est normal. »
Alors, en rentrant à l'hôtel, ils vont tous les trois dans la chambre de Nicolas et font des jeux de lit jusqu'à plus soif. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Ceci les fait rire. Ils passent les nuits comme ça.
Un soir, Nicolas leur dit avant d'aller dans sa chambre
« Non, je ne peux pas. J'ai à écrire un scénario. Et à cause de vous, je ne peux rien faire. Je n'arrive pas à écrire. J'ai aucune idée. C'est de votre faute parce que je suis heureux avec vous. Et le bonheur rend stérile, tout comme la bonté empêche l'homme d'être grand. »
Guillaume surpris lui demande « Pourquoi ?»«
Parce qu'un homme bien, bon, est au service des autres. Et lorsqu'on est au service des autres, on ne peut pas être grand, parce qu'un homme grand se sert des autres.
Voilà, bonne nuit.
et s'enferme dans sa chambre pour essayer d'écrire. Tous les soirs, il les laisse. Guillaume et John n'ont pas l'idée de faire des jeux de lit sans lui. Ils auraient l'impression de le tromper. Les jours passent, et comme Nicolas passe son temps à écrire, le séjour n'est plus drôle. Alors, on décide de rentrer. Arrivé à l'union, avant de se séparer, ils s'embrassent tous. Et Jean dit à Nicolas, tu dis vite ton scénario, que l'on recommence à vivre. Benoît est dans le bureau de son entreprise.
On a frappé à la porte. Entrez.
Est entré un jeune dans les 27 ans, grand, mince, cheveux roux, visage un peu buté, est habillé d'un costume gris. Nicolas le reconnaît. C'est Fernand Percy, l'amant de sa femme. Enfin, il le pense, car il les a vus souvent rire ensemble, et c'est elle qui l'a fait entrer dans l'entreprise comme ingénieur de fabrication. Son rôle est de trouver des systèmes pour améliorer la fabrication. Benoît lui demande, « Vous désirez quelque chose ?»«
Oui, monsieur. »«
Je vous écoute. »«
Voilà, monsieur, j'aimerais c'est pouvoir faire démolir le mur qui sépare les deux cours. »«
Pourquoi ?»«
Parce qu'il est une entrave. Il empêche la liberté de circulation des gens et des marchandises. À cause de lui, on est obligé c'est de faire un grand détour en passant par la rue. »
Benoît lui dit, « Ce mur a été édifié pour empêcher les carambolages des deux unités et améliorer le bruit. Il ne peut pas être démoli, et je ne le veux pas. »
Le jeune lui dit,
« Mais monsieur, si vous voulez une meilleure rentabilité, vous devez le détruire. »«
Non, je me refuse. »
Fernand soupire et dit, « Bien, puisque c'est comme ça, je ne vois pas ce que je fais ici. »
Vous êtes ici, c'est pour vous occuper de la rentabilité de l'entreprise.
Alors faites démolir le mur.
Non.
Bien, j'en parlerai à l'ensemble des cadres et au syndicat. Et ils seront de mon avis, de mon côté.
Même les syndicats?
Oui, car ils trouvent que ça fait ghetto et disent que si la direction ne le fait pas, ils le feront.
Je m'y opposerai.
Bien, monsieur.
Et le jeune le quitte.
Nicolas se demande si c'est pas sa femme qui lui a mis cette idée-là dans la tête pour le faire prendre à cause du cadavre qu'il y a dans le mur.
Le soir, pendant le dîner, qu'ils prennent tous les deux dans la salle à manger, Benoît demande à sa femme « Est-ce toi qui, par hasard, a donné l'idée à ton ami de faire abattre le mur de l'usine ?»«
Non, surtout pas. »
Je lui ai refusé, mais monsieur va en faire une affaire d'État et veut me faire chanter par l'intermédiaire des syndicats. Je trouve qu'il va un peu fort. Non seulement il me prend ma femme,
Benoît,
ce n'est pas vrai, et en plus il me fait chanter.
Je dirais, c'est de laisser tomber cette histoire de mur.
J'y compte bien, car autrement je serais obligé d'agir. Au lieu de démolir le mur, il peut servir à le consolider.
Tu ne ferais pas ça?
Je me gênerais.
Elisabeth, troublée, parce qu'elle aime son ferment,
ce bourreau.
Comme tous les mardis, elle va le rejoindre dans son appartement rue Vauban, un petit immeuble cossu moderne. Il a dedans un appartement 3 pièces.
Au 3e étage, entre.
Bonjour.
Et l'amène au salon.
Car avant de passer dans la chambre, ils vont un moment au salon, boire et discuter un peu. Et oui, on ne peut pas faire ça bien fait, vite fait, à peine ensemble. On n'est pas des bêtes tout de même.
Elle lui dit, mon mari est furieux à cause de cette histoire de mur que tu veux abattre.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut lui faire?
Tu comprends, c'est son mur, c'est lui qui l'a fait faire et a eu l'idée. Alors pourquoi t'acharner là-dessus?
Parce qu'en faisant démolir le mur, je prouve que je sers à quelque chose d'entreprise. On commence à jaser, on dit que je suis un planqué, l'ami du patron.
Laissez parler et fais autre chose, il soupire, lui dit.
Bien, je verrai. Et toi, tu as réfléchi à mon idée de près?
Oui, merci Perlé.
Tu as raison.
Et il se penche pour l'embrasser en se disant qu'il n'a pas assez de pouvoir sur elle.
Des jours passent, on ne parle plus du mur.
La mère organise une soirée dans sa villa. Elle invite bien entendu Fernand. Elle le présente à ses amis en disant
« Ce jeune homme est un ingénieur dans l'entreprise de mon mari. C'est un homme plein d'avenir. »
Fernand est honteux et furieux. Il se dit « Il me prend pour qui? Je ne suis pas un singe savant. »
Il voit passer Sylvie dans une robe blanche très courte qui monte ses belles et longues jambes. Il se dit, c'est tout de même autre chose que la mère. Il va vers elle. Elle sait qui il est, mais n'a jamais fréquenté cet homme. Pour elle,
il fait partie du personnel de son père, un cadre parmi tant d'autres. Il lui dit,
« Je peux vous inviter à danser ?»«
Oui, pourquoi pas ?» Il l'emmène vers la danse. Tout en dansant, il lui dit,
« Je vous trouve très belle avec cette robe. »
Elle lui répond, « Merci, mais je n'aime pas qu'on me parle ainsi. »
« Pourquoi ? Parce que vous êtes la fille du patron et moi un simple employé ?»«
Non, je ne suis pas comme ça. Mais j'aime que les hommes... J'aime pas que les hommes cherchent à me séduire. Je suis une fille libre qui a fait beaucoup de choses. » Et lui dit,
« Ah, je vois. » « Alors, que faut-il faire
pour faire votre connaissance ?»«
Faire quelque chose très intéressant. »
« Et quoi par exemple ?»
Certainement pas être tard dans une entreprise.
Ah, je vois. Mademoiselle rêve d'un surhomme qui lui fasse des espoirs. Et si je vous prouve que je suis capable de faire quelque chose d'exceptionnel?
Et quoi, par exemple?
Je verrai. Eh bien, en attendant, je vous quitte, monsieur.
Elle s'éloigne. Sylvie, furieuse, part prendre une coupe de champagne et se mettre à côté de Denis. Elle lui dit,
les employés sont de plus en plus arrogants. Et mal appris.
Une cliente qui se demande si tu peux aller boire un verre avec elle.
Une semaine plus tard, elle est dans son lit et dort. Tout à coup, elle s'est réveillée par un bruit, ouvre les yeux et voit une grande ombre inhabituelle qui vient de la fenêtre de sa chambre où les volets sont restés ouverts. C'est la pleine lune. Elle se soulève et voit la silhouette noire d'un homme qui frappe au carreau. Elle n'a pas le temps de paniquer qu'elle entend qu'il tape sur la vitre et dit « Ouvrez, ouvrez, c'est moi, c'est moi. » En se penchant plus, elle reconnaît Fernand.
Elle sort du lit, en chemise de nuit, et elle court vers la fenêtre.
C'est bien lui. Ouvrez. Que voulez-vous? Ouvrez, vous dis-je. Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici? Ouvrez. Non. Si vous n'ouvrez pas, je pousse un cri et toute la maisonnée sera réveillée. Je dirai que c'est vous qui m'avez donné rendez-vous.
Vous êtes un horrible personnage.
Non, oui. Je vous trouve très belle. Ouvrez ou je crie.
Furieuse, elle ouvre la fenêtre. Il saute dans la chambre. Elle ferme la fenêtre.
Ils sont tous les deux au milieu de la pièce. Elle lui demande, pourquoi avez-vous fait ça? Vous m'avez demandé un espoir, je l'ai fait. Parler d'un espoir, effrayer une jeune femme dans sa chambre en pleine nuit, et lui dit, j'ai tout de même sauté le mur de la propriété, escaladé la façade et resté en équilibre un long moment avant que vous vous réveilliez, vous avez le sommeil profond. Comment avez-vous fait pour savoir où était ma chambre? Pendant la soirée, je suis monté à l'étage et j'ai visité les pièces. Voilà. Et tout ça pour vous. Je crois que je mérite une récompense.
Il s'approche d'elle. Il veut la prendre dans ses bras. Elle recule.
Il lui dit, c'est pas gentil de refuser de récompenser son héros.
Il s'approche d'elle.
Elle lui dit, si vous refusez un baiser, je crie. Eh bien, criez, lui répond. dirait que c'est vous qui m'avez fait entrer par votre fenêtre. » Elle lui dit, « Personne ne vous croira. » « Ou que si, parce que personne ne croira que je suis passé par la fenêtre. »
En s'approchant d'elle, la clarté de la lune illumine son visage et le rend délicat et doux. Il a un cou mince et fin, des yeux bleus d'hypnotiseur. Il tend les mains et lui caresse le visage tout doucement. Il a les mains très douces.
Arrêtez, ne me touchez pas.
Mais elle ne bouge pas.
Mais elle ne bouge pas. Alors il la tire à lui. Il l'embrasse sur les lèvres. Elle sent son corps musclé contre le sien. Il lui soulève la chemise de nuit. Elle ne réagit pas et se trouve nue. Puis lui, petit à petit, se déshabille. Elle voit apparaître petit à petit ce beau corps musclé de jeune homme. Une fois nue, il la prend dans ses bras et l'allonge sur le lit.
Se réveille, fait jour. Il voit coucher près d'elle Fernand. Elle le secoue, lui dit,
vous te réveillez et partir.
Il se réveille, lui sourit, lui prend les bras et l'embrasse.
T'es heureuse?
Oui.
Tu m'en veux plus?
Non, mais il faut partir.
Ils vont se réveiller,
il lui demande.
Nous nous reverrons quand?
Je ne sais pas.
Je te ferai savoir. Allez, lève-toi.
Il se lève, pousse ses vêtements à terre et s'habille. Elle le regarde et le trouve beau.
Une fois habillé, lui demande « Comment faire pour partir ?
Par la fenêtre, on risque de me voir. Et puis maintenant, il fait jour. »
Elle lui dit
« Mon Dieu, c'est vrai. »
Elle réfléchit et lui dit
« Je vais te faire passer par la fenêtre de la salle de bain qui donne à l'arrière de la maison. Là, on ne te verra pas. Tu sortiras par le jardin et longeras le mur. »
Il lui dit « Tu vas me faire faire un exploit, je ne suis pas un chevalier. »
Elle se lève, enfile sa chemise de nuit qui était à terre. Viens avec moi. Ils sortent de la chambre, suivent un couloir. Il le fait entrer dans la salle de bain. Il va ouvrir la fenêtre de la salle de bain.
Ouvre la fenêtre.
Il regarde et lui dit,
je me casse la figure.
Elle lui dit,
mais non, tu descends te tenant par le chenot. Allez, fais vite.
Il l'embrasse.
Et sort par la fenêtre.
et avec ses mains, il s'accroche à la gouttière pour descendre. Puis une fois en bas, il monte sur un tonneau d'eau qui sert à arroser le jardin. Il est contre le mur et saute le mur. Ouf ! Il est sur la route. Elle l'a vu faire et se dit que c'est décidément, c'est un bel homme. Et retourne se coucher pour rêver à lui. Les jours passent. Elles veulent le voir chez lui une fois par semaine. Ils n'osent pas sortir ensemble par peur que l'on jase sur eux parce qu'il est employé chez son père. Lui fait tout pour que la mère et la fille ne se voient pas, parce qu'il a encore besoin d'Elisabeth, car il n'ose pas demander de l'argent à Sylvie, et puis pourra-t-elle le lui en donner, autant que sa mère. Et puis, recevoir deux fois par semaine, c'est mieux qu'une fois. Pour ce qui est du mur, il n'en parle plus, on verra plus tard, mais ne comprend pas l'entêtement de Benoît. Sylvie est heureuse. Il fait très bien l'amour, il est beau, mais elle s'aperçoit très vite qu'il ne faudra pas lui demander plus. Malheureusement, ce n'est pas un aventurier. Après un mois de plaisir intense, elle commence à trouver son aventure très banale. Elle finit par s'ennuyer. Un après-midi, après avoir fait l'amour, avant de partir, il lui dit « À jeudi ?» Elle fait l'amour et lui dit « Non, plus tard. » Il est surpris, lui demande « Pourquoi ?»« Parce que je n'aime pas la routine. »«
Tu n'aimes pas faire l'amour ?»«
Je ne dis pas ça, mais il n'y a pas que ça dans la vie. »« Pas faire l'amour, on ne fait rien d'autre. »« Tu n'as aucun sujet de conversation. » Il soupire et lui dit « Tu veux qu'on parle de quoi ?» Elle touche les épaules et lui dit « Tu vois, on n'a qu'un sujet de conversation. » Non, il vaut mieux qu'on se quitte. Surpris, il fait le sympa et lui dit « Est-ce que vous avez tout à vouloir aimer un dictionnaire ? Tu veux jouir avec un cerveau ? Ma queue ne te suffit pas ? Moi, je me sers de ma tête avec les femmes parce qu'elles ont une belle gueule pour séduire. Et ensuite, il s'arrête de marcher. Il fait face et lui dit « Nous entendrons jamais. »
Et elle sort.
Il se dit « Je m'en fous, j'ai encore la vieille. » Le lendemain après-midi, Elisabeth est chez lui. Elle regarde autour de la chambre, inquiète. Lui est assis sur le rebord du lit. Elle le regarde et lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui répond « Quelque chose me dit qu'il y a une autre femme. » Il soupire et lui dit « Je t'assure, il n'y en a pas d'autre. » Elle lui dit « Pourtant, je sens sa présence. » Une légère odeur, une épingle à cheveux que j'ai trouvée à terre, une cigarette avec du rouge à lèvres. Je ne fume pas, mais j'ai pas d'épingle. C'est bien la preuve que tu reçois une femme dans ta chambre. Ce n'est pas ça, ça doit être la femme de ménage. Tu as une femme de ménage maintenant ?
Oui.
Tu en as fait ta maîtresse ? Non, c'est une vieille noire. Et que fais-tu le jeudi ?
Le jeudi ?
Oui, mon mari m'a dit que tous les jeudis, tu ne travaillais pas. Ah,
Les maris sont tous complices de leurs femmes. En plus d'elles, on est surveillé par eux. On dirait qu'ils ont peur que l'on trompe leurs femmes. Eh bien, si tu veux tout savoir, le jeudi, je me repose de toi et de ton mari. Car entre vous deux, j'ai plus de temps à moi.
Merci.
Il se lève et va vers elle.
Cessons-nous chamailler pour rien. Le jeudi, je m'occupe de mes petites affaires pour pouvoir être entièrement disponible pour toi. Et lui demande.
C'est bien vrai, ça.
Oui, je te le jure.
Et cette femme qui traîne chez toi?
La femme de ménage. Me donne un baiser sur la joue. Allez, pensons aux choses sérieuses maintenant.
Deux heures plus tard, elle est partie. Une fois qu'elle est partie, il refait le lit.
Il se dit, la fille m'a lorché. Si la mère me lorche, le mari aussi le fera. Je me retrouverai au chômage. Il faut que je renforce mes positions.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 30e partie. Production mise en scène Junier Jean-Pierre, enregistrement CV.